Les traverses du temps. Les traverses du temps en compagnie de Jean-Jacques Lefrère, professeur de médecine, grand écrivain aussi, chercheur, un chercheur extrêmement curieux, puisqu'à la fois un chercheur en médecine et un chercheur en littérature, en histoire même.
Les deux sont passionnants, se complètent parfois, bonsoir.
Bonsoir professeur Lefrère. Oui, c'est vrai que on est un peu étonné de voir tous vos champs d'action quand on sait ce que c'est que d'être professeur de médecine.
Ah, c'est sûr que c'est assez lourd parce que la médecine et la recherche, surtout en médecine, est un métier qui prend beaucoup. Mais bon, il faut savoir aussi se ménager des plages d'autres activités. Et effectivement, tout ce qui est recherche d'histoire littéraire m'intéresse en particulier. Des grands poètes de la fin du 19e siècle ou même des littérateurs contemporains. Donc j'ai toujours gardé cet intérêt littérature et médecine qui finalement est une particularité qui était assez fréquente autrefois, qui est peut-être plus rare aujourd'hui, mais il y a toujours eu entre littérature et médecine des liens très forts.
Et vous avez raison de parler d'histoire parce que dans le livre qui paraît aujourd'hui, je crois,
oui,
qui sort aujourd'hui, qui s'appelle « Quand la médecine gagne », ce qui fait du bien à lire, ce sont des enquêtes sur plusieurs aventures médicales pour lesquelles les chercheurs, les scientifiques se passionnent encore aujourd'hui, mais on s'aperçoit qu'elles sont très anciennes.
Parfois, elles remontent tout à fait dans le temps et sont des histoires importantes. C'est-à-dire qu'il y a parfois des découvertes diagnostiques ou thérapeutiques sur lesquelles on vit encore. Je veux dire, quand par exemple l'ANEC a découvert le stéthoscope, donc ça remonte quand même maintenant à presque plus de 2 siècles, ben finalement le stéthoscope est encore utilisé par les pneumologues, par les cardiologues d'aujourd'hui. Donc je veux dire, la médecine est une discipline qui vit avec un acquis très lourd, mais qui aussi en perpétuelle évolution. C'est-à-dire qu'elle se remet en cause régulièrement. Il y a parfois des thérapeutiques qui sont abandonnées, laissant place à des nouvelles. Des outils diagnostiques aussi qui sont abandonnés pour d'autres nouveaux. Donc c'est un perpétuel mouvement. Ce n'est pas du tout une discipline figée. Et c'est en cela qu'elle est à la fois une science, et tout en restant un art.
Alors, si je cite les 3 premiers chapitres, le premier c'est la grève de visage, et vous parlez du professeur Lantieri qui a été notre invité au travers du temps aussi. Il y a les enfants bleus après, et tout d'un coup ce 3e chapitre qui m'a vraiment passionné, l'électrochoc.
Ah, l'électrochoc, oui.
Parce que c'est vrai qu'on a tous l'idée d'institut psychiatrique effrayant.
On a une image très péjorative de l'électrochoc qui a été entretenue d' ailleurs par les livres et même le cinéma, le vol de Sidney Lumet, qui est un très beau film, qui est d'ailleurs un reflet tragiquement assez réel de la réalité des hôpitaux psychiatriques américains des années 40. Il faut savoir que l'électrochoc est une thérapeutique qui a une relative ancienneté maintenant, presque un siècle, et qui a été très décriée parce qu'il était utilisé dans des conditions dramatiques, imposées aux patients, parfois même à titre de répression, et on se demandait finalement si c'était une thérapeutique ou si c'était quelque chose un acte de cruauté par rapport aux malades mentaux. On a tous en scène en mémoire ces actes, ces patients qui tressautent, qui hurlent, qui serrent les dents, etc. Et les indications à l'époque étaient discutables, on va dire. Aujourd'hui, tout a changé. C'est-à-dire que la pratique de l'électrochoc est très maîtrisée. On le fait sous anesthésie générale, on met du curare, petite dose bien entendu, pour éviter ces grands sursauts. Et donc, ça se passe très bien médicalement. Et surtout, ça a trouvé sa véritable indication, qui est la mélancolie, c'est-à-dire cette forme de dépression. La mélancolie, c'est un terme qui n'est pas du tout au sens romantique, mais au sens médical, c'est-à-dire une dépression extrêmement sévère, en gros, pour laquelle les thérapeutiques médicamenteuses ont échoué. Et parfois, les psychiatres en viennent à envisager l'électrochoc avec des succès importants. Donc c'est vraiment un changement d'utilisation, de maniement d'une thérapeutique qui a été très décriée, au point même d'avoir été taxée de barbarie, et qui aujourd'hui, maintenant bien maîtrisée, est un outil thérapeutique précieux.
Et comment vous ressentez dans le film dont vous venez de parler, Vol au-dessus d'un nid de coucou, comment vous ressentez la scène finale?
Alors,
cette scène de l'Indien.
Alors, c'est la scène de l'Indien. Alors, elle est très symbolique du film, parce que finalement, quel est ce film? C'est un prisonnier qui mime la folie pour échapper à la prison et qui devient finalement un peu fou, que l'univers carcéral psychiatrique rend fou, au point de subir des électrochocs, une opération sur le cerveau. Et un de ses compagnons, le voyant complètement dégradé, le tue et s'évade. Et effectivement, c'est un petit peu le symbole de l'âme du prisonnier qui reste libre. Et c'est sur une musique qui est magnifique et qu'on vend. Je pense.
Absolument. La dernière scène du film de Miloš Forman vole au-dessus d'un nid de coucou, mise en musique par le compositeur américain Jack Nitzsche. Aucune indication évidemment des orchestres, comme toujours dans les bandes originales, c'est un peu dommage. Ce sont souvent les orchestres évidemment des majors qui font le film. Alors Jack Nitzsche, il a été connu parce qu'il a fait la musique de L'Exorciste, et plus près de nous, de The Indian Runner, le Congrès indien avec Sean Penn. Ouais. Et il est mort il y a une dizaine d'années à Los Angeles. Je reviens un peu sur vos enquêtes, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a décrit comme un détective littéraire. Parce que vous avez fait des biographies étonnantes de Isidore Ducasse, L'Autre et Amont. Et vous êtes allé jusqu'en Uruguay.
Oui.
Vous avez fait une biographie aussi de Rimbaud.
De Rimbaud, qui m'a amené à Aden, au Harare. Oui, chaque fois, j'essaie de voir sur place. Ça me paraît important, quand même, quand on retrace la vie de quelqu'un, de savoir où il a vécu. Et par exemple, pour L'Autre et Amont, la lecture des Chants de Maldoror n'est pas la même pour ceux qui sont allés à Montevideo et ceux qui ne sont pas allés. Je l'ai lu avant, donc j'avais cette impression-là. Et au retour de Montevideo, j'ai lu le Chant de Maldoror et des choses m'apparaissent. Alors c'est difficile à transmettre, la présence de la mer dans la vieille ville, ses mouettes, etc. Des allusions des chants qui montrent quand même l'influence uruguayenne a été très forte pour L'Autre et Amont. Pour Rimbaud, c'était différent, parce que finalement, aller à Aden ou à Harare, c'était sur un homme qui n'était plus poète, hein, puisqu'en Rimbaud, le poète est mort jeune, l'homme a survécu. Mais c'était quand même important de savoir quel était le destin de ce personnage comme ça, qui écrivait une œuvre qui nous reste quand même très, très forte aujourd'hui, et qui a arrêté d'écrire à 19 ans pour vivre une vie d'aventurier. Et là, c'était plus de la curiosité, ça dépassait un peu la littérature, c'était de la curiosité pour comprendre le destin d'un homme, finalement.
Alors, les journalistes ont dit que vous étiez un biographe sans concession.
Oh, oui,
vous tentez
oui,
de voir...
Que, c'est peut-être ma formation un peu scientifique qui aide. C'est-à-dire, j'aime beaucoup, je préfère, je dirais, dans une biographie, la réalité à la géographie, bien sûr, ou à la dissimulation. Souvent, des biographies, on ne sait pas, l'auteur ne le dit pas qu'il ne sait pas. Moi, quand je fais une biographie, que je ne sais pas, je le dis. C'est-à-dire, il y a une zone d'ombre, je n'ai pas découvert des choses. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir... Alors, pour Rimbaud, c'était très fort.
Et pour Che Guevara, par exemple, quand vous avez fait, vous avez publié les dernières photos, c'est quelle...
Oui, tout à fait, qui avait, pour une histoire très compliquée, j'ai pu retrouver les dernières photos qu'il avait prises et qui ont été retrouvées sur son cadavre, finalement. Et là aussi, c'était à la suite d'enquêtes, donc il fallait retrouver des témoins, aller sur place, interroger des gens. Enfin, ça m'intéresse à la fois d'enquêter, de retrouver les documents, et puis de serrer un peu la vérité, un peu combattre le mythe. Alors parfois, on a des surprises, par exemple, pour Rimbaud. Plus je travaillais sur Rimbaud, plus je me rendais compte que le mythe de Rimbaud avait vraiment masqué le personnage. En revanche, pour Che Guevara, je me dis finalement la différence entre le mythe du personnage et ce qu'il était lui-même, au moins pour une partie, c'était pas si éloigné, même s'il y a des aspects noirs du personnage qui ont été vraiment très souvent mis en lumière. Mais là, le mythe est quand même dans son entièreté, dans son absolutisme.
Dans sa folie, c'est presque.
Oui,
non,
si on veut, dans son absolutisme. Je veux dire, c'était la révolution jusqu'à la mort et au-delà de la mort.
C'est ça, la résurrection jusqu'à la mort.
En gros, est-ce que la mort a une importance quand on a un idéal révolutionnaire? Or, qu'est-ce qu'il y a de plus important que sinon la vie
là-dessus. La vie, oui.
Et finalement, pris par leur idéal, souvent, c'est ce genre d'homme va à la mort et entraîne les autres aussi, souvent. C'est un petit peu la folie de ses aventures. Pour Rimbaud, c'est différent. C'est une aventure qui était vraiment solitaire et d'un homme qui voulait se faire oublier. Donc, aller sur les traces d'un personnage comme ça qui refusait d'appartenir à l'histoire, on est partagé dans un sentiment d'indiscrétion quand même. On se dit, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Mais la curiosité est la plus forte. Et puis, qui ne rêverait, ayant lu Rimbaud à 18 ans ou à 16 ans ou à 17, d'aller voir à Harare ce que c'était, Harare. Car Harare n'a pas bougé. Le Harare que Rimbaud a connu, c'est le Harare qu'on voit aujourd'hui.
Oui. Oui. Alors, vous vouliez entendre du Rameau et des extraits de Dardanus. Alors, si nous faisions un petit voyage musical avec les guerriers de Dardanus, ça commence par des tambourins et ça se finit par des bruits de guerre. Et au milieu, ce que vous attendiez par-dessus tout, le célèbre Rigaudon. toute l'imagination et l'énergie de Marc Minkowski à la tête de ces musiciens du Louvre dans ces trois extraits orchestraux de Dardanus, l'opéra de Jean-Philippe Rameau, des bruits de guerre qui évoquaient un peu nos combattants.
Oui, tout à fait. Oui.
C'est d'ailleurs, plein d'idéal, mais en même temps, quelquefois, plein de morts aussi. On parlait de Rimbaud, même Lautréamont.
Oui, ce sont des œuvres où la mort Guevara, est très présente. Guevara, hein, oui. Tous ces gens-là, ils sont hantés par la mort, finalement. Hein. Oui. L'œuvre de Rimbaud, oui, mais Lautréamont, alors là, la mort est présente. Elle est même chantée dans certains passages. Quoi. Donc, on se demande d'ailleurs si ces artistes, ces créateurs, justement, la relation vie et mort, ils ne placent pas leur œuvre entre les deux. Quoi,
oui.
Finalement.
Mais curieusement, dans votre livre, c'est tout le contraire.
Ah, oui.
Quand la médecine gagne, oui. C'est plein d'espoir.
C'est pour la vie.
Voilà, c'est pour la
c'est
vie,
entièrement
c'est un
pour la
combat
vie,
pour
oui.
la vie.
Puis finalement, aujourd'hui, depuis d'ailleurs plusieurs années, la médecine est souvent décriée. On en décrit parfois des excès, des échecs, etc. Et ça me rappelle toujours la phrase de Proust dans La recherche du temps perdu, où il écrit que croire à la médecine serait la plus grande folie, si n'y pas croire n'en était une plus grande encore. Ce qui est assez révélateur de la part de quelqu'un qui était lui-même malade, et surtout fils et frère de médecin. Donc je veux dire, il a une relation à la médecine, il admire... Et il la décrit aussi. Et aujourd'hui, la médecine est parfois décriée. Et là, avec Patrick Berche, avec qui j'ai fait ce livre, on a voulu voir quand même réunir des histoires positives, c'est-à-dire montrer des domaines où la médecine avait triomphé, soit sur le plan en éradiquant des maladies, alors on pourra parler de la variole, de la syphilis, soit en faisant des progrès très importants, voire des actes innovateurs. Là, la greffe de visage, par exemple, qu'on évoquait tout à l'heure, est un acte quand même qui est très fort symboliquement. Je veux dire, là, la médecine touche à des choses, la chirurgie, en l'occurrence, touche à des choses extrêmement profondes. Qui pouvait imaginer que, dans le drame comme celui qui est arrivé à cette femme, qui avait été opérée par Bernard de Vauchel, un des pionniers, justement, visage arraché dans des conditions dramatiques, et qui allait condamner une femme jeune à avoir une vie qui n'allait plus être une vie, finalement. Quand on n'a plus de visage, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de vie sociale, on n'existe plus par rapport aux autres. Eh bien, un acte chirurgical a permis de lui restaurer un visage et de l'en remettre parmi les humains. C'est, pour moi, une très belle aventure de la chirurgie moderne, parce qu'elle va au-delà de l'acte chirurgical. Elle est très lourde de symboles et très émouvante que de redonner un visage, une identité, et de permettre à quelqu'un de rejoindre l'humanité. C'est quand même assez important, quoi.
Alors, vous m'avez demandé que vous teniez beaucoup à entendre une musique de Ennio Morricone,
oui.
L'auteur de musique de film.
Bah oui, vous voyez, j'ai des admirations en musique,
mais
des intérêts très, très variés.
Et j'ai pensé tout de suite à quelque chose.
Oui.
J'ai pensé à un film absolument sublime de Terrence Malick,
pour lequel
il a composé, vous allez l'entendre, une musique aussi très forte.
D'accord.
Et c'est une musique, et là on rejoint peut-être Guevara, ou l'un de mes amis, Nestor Almendros, qui a fait la photographie. Il faisait des photographies sans artifice, avec la lumière du jour, des panneaux en carton, en bois. Ouais. Il a eu un Oscar. Ouais. Et c'est Les Moissons du ciel. Alors je vous propose d'écouter le thème principal de La Moisson, c'est Ennio Morricone. Il est 19h32, vous écoutez France Musique, Les Traverses du Temps, et nous écoutions la musique du film Les Moissons du Ciel de Terrence Malick, composé par Ennio Morricone, qui dirigeait ici l'orchestre. Vous avez reconnu un peu votre cher Ennio Morricone,
ah oui,
et Jean-Jacques Lefrère.
J'aime beaucoup Ennio Morricone. D'ailleurs, je ne le dirai pas en public, mais comme nous sommes entre nous, je place parfois certains musiciens de cinéma, comme Morricone, comme Nino Rota. Je dirais, pour moi, dans mon panthéon personnel, ils sont au même niveau, même affection que les grands musiciens classiques, etc. Et j'écoute avec le même plaisir Nino Rota et Mozart.
Eh bien, alors, comme vous m'avez demandé de la musique aussi lyrique, vous avez voulu réentendre la voix de Caruso.
Oui, parce que Caruso, alors, la voix humaine étant de toutes les musiques la plus harmonieuse, effectivement, la voix de Caruso, pour moi, elle a un drôle d'effet. C'est-à-dire, elle m'oblige à arrêter ce que je fais. Si jamais je suis en voiture, je me gare aussitôt. Si jamais j'ai entendu Caruso, pour moi, c'est une voix qui me tétanise un peu. On ne peut pas faire autre chose en l'écoutant. Tellement elle a ce côté envoûtant.
Alors là, il est enregistré en 1916 et il chante l'air de André Chénier dans l'opéra de Umberto Giordano. André Chénier qui parle du beau mois de mai parce qu'il est poète, mais qu'il sait quand même qu'il va mourir. Voyons comment Umberto Giordano passe après Ennio Morricone. Enregistré en 1916, Caruso, dans l'air d'André Chénier, de Umberto Giordano, professeur Jean-Jacques Lefrère. Vous disiez la voix, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement.
Ah oui.
Plus qu'un instrument ou...
C'est différent, mais c'est vrai que c'est fascinant la voix. Par exemple, les liens entre la voix et la mémoire. Quand vous décrochez votre téléphone, vous savez d'emblée, rien qu'aux premières syllabes de la voix d'un interlocuteur, vous le reconnaissez. La voix permet d'identifier chacun. Donc nous sommes tous différents sur la voix. Et ça m'a toujours fasciné, cette variété, cette capacité qu'a le cerveau de reconnaître, sur une ou deux syllabes, l'identité de quelqu'un. Et je dirais, comment communiquerait-on sans ça ? Je veux dire, ça me paraît important. Pour moi, c'est une musique. finalement. Et on voit comment certaines personnes se servent de leur voix, ou d'autres en servent mal. C'est aussi un instrument.
Et on va écouter du Beethoven. Alors j'ai bien envie de vous poser la question sur la surdité, par exemple. Il y a eu des recherches très tôt dans l'histoire de l'humanité, j'imagine, jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas progressé, comme pour les transfusions, comme pour la, la variole.
Pour la surdité, d'abord, il y a différentes surdités, il y a différents mécanismes de surdité. Il y en a certains qui sont transitoires, d'autres définitifs. Et puis, il y a des, quand même, au point de vue appareillage, quand même, il y a des dispositifs qui permettent maintenant d'avoir accès. La forme de surdité bilatérale, absolue, définitive, c'est quand même relativement rare.
Alors, j'ai choisi la sonate pour violon et piano numéro 3, l'opus 12 en mi bémol majeur. On écoute le rondo. C'est Gidon Kremer au violon et Martha Argerich au piano. Le rondo de la sonate pour violon et piano numéro 3 de Beethoven, Gidon Kremer violon, Martha Argerich piano. Professeur Jean-Jacques Lefrère, je voulais donner une idée de comment et agencer votre livre, comment vous l'écrivez. Je suis au chapitre 5, qui m'a passionné d'ailleurs, des transfusions.
Oui.
Et ça commence comme ça. En 1492, pendant que l'expédition menée par Christophe Colomb débarque en Amérique, à Rome, un pape sent la mort approcher. Pour rendre sa vigueur à Innocent VIII, déjà très affaibli, un médecin imagine de faire circuler dans ses veines le sang de jeunes gens en parfaite santé. Et vous partez sur votre enquête, et c'est passionnant. Et tous les chapitres sont comme ça. Celui de l'eau salée aussi, qui a servi à...
Oui, qui sauve des vies.
Qui sauve des milliers de vies.
Souvent d'ailleurs, ça a été presque, on a envie de dire, des petits moyens. C'est des idées simples, mais qu'il fallait avoir au bon moment, à la bonne époque, à la bonne personne.
Regardez les électrochocs, vous parlez de ces poissons électriques qu'on mettait sur
les côtes. Oui, les Romains, par exemple, les Romains traitaient le mal de tête en se servant de ces anguilles électriques. Et il y avait même des recettes de médecine, on dirait des prescriptions aujourd'hui, où on dit, si tu as mal à la tête, tu appliques une anguille électrique à l'endroit où tu as mal, etc. Donc c'était l'ancêtre très très éloigné, c'était la préhistoire de l'électrochoc, mais l'homme a toujours cherché... à guérir de maladies ou de symptômes ou de souffrances. Et donc tous les moyens étaient bons. Et on se rend compte que les idées qui paraissent révolutionnaires avaient souvent parfois, dans l'Antiquité, chez les Grecs, chez les Latins, il y avait déjà l'idée qui était là. Mais seulement la technologie n'était pas à la hauteur. Et c'est finalement des moyens comme l'électricité ou aujourd'hui la biologie moléculaire qui permettent de grands pas. Mais la médecine est c'est une avancée permanente. Elle naît de manière très ancienne dans l'humanité, probablement même dans la préhistoire. Et on arrive aujourd'hui à des formes de médecine qui sont d'une grande complexité. Mais elle, au moins, c'est une discipline qui a un but, c'est d'aider l'homme, de prolonger la vie, de le prolonger dans les meilleures conditions. Donc là, c'est un axe qui est simple. Et on peut avoir certains dangers, effectivement, c'est un péril par rapport à des progrès que l'on ferait sur le plan biologique. Alors, je fais allusion, par exemple, à tout ce qui est la manipulation du génome humain, là aussi.
Et bien sûr.
Est-ce qu'il n'y aura pas un moment donné où les progrès iront un peu trop loin ? Il faut qu'on soit vigilant là-dessus et qu'on reste vraiment très, très éthique. Primum non nocere.
Alors, je vous fais plonger maintenant, Jean-Jacques Lefrère, parce que vous désiriez l'Offenbach dans les profondeurs du Rhin.
Grande passion pour moi, Offenbach.
Vous allez être étonné par cette musique.
Bien.
Alors, est-ce que vous avez reconnu Jean-Jacques Lefrère ?
Ah, je crois bien. Les filles du Rhin.
Vous connaissez votre Offenbach par cœur.
Je connais un peu. Moi, j'ai toujours... C'est un plaisir, Offenbach, parce que c'est un sentiment, quand on l'écoute, qu'on ressent le plaisir que lui a eu à les composer. Ce qui est rare, cette espèce de vivacité, de joie permanente, de renouvellement. Moi, je trouve ça très révolutionnaire comme musique.
Ah oui, c'est un opéra romantique qui s'appelle Die Rhein-Nixen, qui a été créé à Vienne, Les filles du Rhin. Oui, et vous avez remarqué qu'il y avait ce chant des elfes qu'on entend dans l'ouverture, qu'il a repris dans la barcarolle des contes d'Hoffmann.
Tout à fait, oui.
Juste avant la fin de sa vie. Et ça, c'était en 1864. Eh bien, décidément, on ne peut pas vous avoir. Par contre, le chef, vous n'avez pas deviné, ne me dites pas quand même. C'est Marc Minkowski, de nouveau.
Ah non, ça je ne savais pas.
Qui dirige Offenbach, on le sait, de main de maître avec ses musiciens du Louvre. Alors, on parlait tout à l'heure de Che Guevara. Je n'ai pas pensé vous demander si vous êtes allé à Cuba, parce que vous m'avez demandé de la musique cubaine aussi.
Oui, je suis allé à Cuba, à la fois pour des raisons touristiques, on va dire, et puis j'en ai profité pour faire quelques recherches sur Guevara, visiter ce qu'ils appellent le musée de la Révolution, qui est un peu tristouné. Mais je voulais voir surtout ce que c'était la vie à Cuba, m'imprégner de ça, cette ville qui ressemble quand même à peu d'autres, avec ses voitures américaines de notre temps.
Qui s'est arrêtée dans les années 50.
Voilà, qui est un peu figée dans le temps, avec cette joie de vivre, là aussi, cubaine. C'est une, je dirais, le jour, la nuit, sa vie à Cuba. C'est
alors,
très fascinant.
Vous m'aviez demandé si on pouvait entendre quelque chose comme la Guantanamera. Je dis, on ne va pas faire entendre la Guantanamera encore. J'ai pris de cette musique qui s'appelle à Cuba la música guajira. C'est la musique des campagnes en opposition à la musique citadine, le cha-cha-cha, le mambo, la salsa aujourd'hui. Alors, puisqu'on parlait des années 50, et bien le plus célèbre et qui a chanté aussi la Guantanamera, c'était Guillermo Portabales. Et l'une de ses chansons, je l'ai choisie pour vous, ça ira très bien avec votre livre, Fleur de l'amour, Flor de amor.
El corazón me palpita. Me rebosa de alegría cuando recuerdo aquel día que por una linda flor yo le conquisté el amor a mi linda guajirita. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. Tengo una choza de guano a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío muy feliz y placentero, con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. Chiosa de guano a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío muy feliz y placentero, con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor.
Voilà, c'est ce genre de musique que le fameux film Buena Vista Social Club a réussi à ressusciter.
Mais ces musiques cubaines, elles sont toutes semblables et toutes différentes.
Alors complètement, pleines d'imagination chaque fois. Avec des textes extraordinaires.
Ouais, ils sont très belles.
Guillermo Portabales, Flor de Amor. Je reviens à votre livre, donc publié aux éditions Flammarion, Quand la médecine gagne, que vous avez écrit avec Patrick Bersch. Il y a un chapitre très émouvant consacré à Jean Dausset. C'est qui Jean Dausset?
Ah, c'est un personnage, je dirais, c'est presque le personnage le plus admirable du livre. Avec Patrick Bersch, quand on a commencé ce livre, on a enquêté sur les différents protagonistes de la médecine, des chercheurs. Parfois, on découvre chez certains des zones d'ombre. Jean Dausset, c'est un personnage...
Comme chez Guevara, chez Rimbaud et chez Isidore Ducasse.
Mais même chez les chercheurs, chez les médecins.
Ah, aussi.
Oui, il y a aussi parfois des zones un peu, des caractères, ou des tempéraments, ou des fautes de vie, etc. Jean Dausset, ça m'a vraiment impressionné, car tout ce que j'ai pu découvrir sur lui... susciter l'admiration, admiration que je n'ai pas facile, mais là, en l'occurrence, pour le chercheur, pour l'homme de réflexion, d'éthique, c'est vraiment admirable de bout en bout. C'est un personnage qui vraiment est très impressionnant. C'est dommage que son nom ne soit pas plus connu du grand public, et la découverte majeure qu'il a faite, il a identifié ce qu'on appelle le système HLA. Le système HLA, c'est ce qui nous constitue tous, chacun, qui fait que nous sommes différents, et avoir compris l'existence de ce système a ouvert la porte à une des thérapeutiques les plus importantes d'aujourd'hui, qui est la greffe. Et si aujourd'hui on peut sauver des vies, ou transformer par exemple des patients qui vivent sous le régime de dialyse en greffés de reins, et donc qui reprennent une vie beaucoup plus libre, et bien si toutes ces greffes se passent dans le monde, et si on sauve des milliers de vies, si on en sauve encore des millions, on le doit un peu à Jean Dausset, qui a permis de comprendre biologiquement ce qui allait permettre de faire des greffes. Donc c'est une très belle aventure humaine que celle de Jean Dausset, c'est une belle aventure scientifique, et c'est ce genre de personnage qui attire vers la médecine. Et moi, quand j'étais adolescent, je commençais à réfléchir sur la médecine, je me dis, des personnages comme ça, on a envie quand même de suivre, et je pense que ça peut donner envie à d'autres de se lancer dans la recherche, de faire de la médecine. Heureusement qu'il y a des personnages comme ça, forts, emblématiques, généreux, purs.
Alors, est-ce que justement cette évocation ira bien avec la musique de Mozart, qui est le compositeur que vous aimez par-dessus tout?
Déjà le vocable pur, oui. Pour Mozart, il vient assez rapidement. Oui, pour moi, c'est. Disons que parmi tous les compositeurs classiques, on a des préférences. On se dit, tiens, je préfère tel ou tel morceau. Pour Mozart, moi, je ne peux pas. Je veux dire, j'aime tout de manière globale. Je suis un inconditionnel. C'est pas la peine de me chercher sur tel passage moins bon. Je dis non. Mon admiration est absolue et totale. Mozart. Seul.
Votre livre ouvre sur l'espoir, et bien le final de sa symphonie numéro 34 aussi, avec un bel allegro vivace.
Thank you.
Sir Neville Marriner à la tête de l'Académie de St. Martin in the Fields dans le final de la symphonie numéro 34 de Mozart. Au revoir, professeur Lefrère.
Au revoir, merci beaucoup pour toute cette musique.
Écrit avec Patrick Berche, Quand la médecine gagne, aux éditions Flammarion.